Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. 9 juin 2024, dissolution de l'Assemblée. 30 juin 2024, premier tour des élections législatives. Entre ces deux dates, une campagne express que personne n'avait imaginée. Des alliances imprévisibles, des partis qui explosent et des électeurs sommés de choisir en urgence les députés de leur avenir. Acte 1, la décision de la dissolution. Une seule décision, un saut dans le vide, quelques mots qui vont tout changer et totalement redistribuer les cartes politiques, bien au-delà de la seule question de la majorité à l'Assemblée nationale. Mais cela, le chef de l'État l'a-t-il anticipé ?
C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
Ce 9 juin 2024, une heure à peine après les résultats des élections européennes, le président de la République Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée. Sur le plateau de BFM TV, c'est la stupéfaction.
Le coup de théâtre ce soir après la prise de parole d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui annonce donc la dissolution ce soir de l'Assemblée nationale. Il tire les conséquences immédiatement après cette lourde défaite de son camp aux élections européennes. Dissolution dès ce soir de l'Assemblée et Emmanuel Macron a d'ores et déjà donné les dates du vote. Premier tour le 30 juin, deuxième tour le 7 juillet. C'est un coup de théâtre.
Les députés apprennent en direct qu'ils perdent leur mandat, leur circonscription, que les dossiers qu'ils défendent sont gelés. Sur RMC ce 28 juin, et avec un peu de recul donc, Yaël Braun-Pivet, la présidente sortante de l'Assemblée, réagit.
Évidemment, ça, j'ai reçu un coup sur la tête, c'est un coup de bambou pas possible. Pour moi, personnellement, parce que lorsque vous exercez cette fonction, vous essayez de l'exercer le mieux possible. Vous avez le sentiment qu'on vous coupe les ailes, parce que j'avais plein de projets pour l'Assemblée nationale.
Dans la foulée de cette annonce imprévisible le 9 juin, toute la classe politique réagit à chaud. La grande majorité des responsables ont appris la nouvelle en regardant leur télévision ou en écoutant la radio.
Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale, le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts.
Certaines prises de parole laissent comprendre aux Français que cette campagne va être épique. Un exemple, François Ruffin, député de la France Insoumise. Dimanche 9 juin, il est 22h22.
Écoutez, on a un taré à la tête de l'État, là. C'est un pyromane de la République.
Acte 2, les alliances et les partis qui explosent. La phrase de François Ruffin fait réagir, certes. Mais ce que l'histoire retiendra surtout, c'est que le député de la Somme est le premier à appeler à la création d'un grand front populaire de gauche. Toujours sur BFM TV.
Je le dis dans ce moment, je le dis avec gravité, avec responsabilité, il nous faut une gauche unie, il faut arrêter les conneries. C'est le seul moyen d'aujourd'hui faire front au Rassemblement National. Et j'en appelle dès ce soir, Marine Tondelier, Olivier Faure, Fabien Roussel, Emmanuel Bompard, pour qu'on se range derrière une barrière commune, une barrière front populaire. Parce que, on l'a vu dans l'histoire de notre pays, on est capable d'un sursaut.
Contre toute attente, et sans doute contrairement au calcul fait par le chef de l'État, cet appel va être entendu. Et c'est à gauche que les choses vont s'organiser le plus rapidement. Le 13 juin 2024, soit seulement 4 jours après la dissolution, les représentants de la gauche s'affichent ensemble, tout sourire, devant les caméras et les micros.
Priorité directe, on voit à l'écran les partisans de cette union, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, derrière notamment Yannick Jadot, ancien candidat écologiste à l'élection présidentielle, Clémence Guettet, Cyril Châtelain, voilà donc ceux-là même qui viennent de signer cet accord à gauche et qui donc applaudissent.
À droite en revanche, rien ne va plus. Mardi 11 juin, Éric Ciotti, le patron des Républicains, se rend au 13h de TF1, où il annonce une alliance avec le Rassemblement National de Jordan Bardella. Au sein de son parti, les cadres le condamnent tous azimuts. La guerre est déclarée. Nous sommes à 19 jours du premier tour. Le chef de file des sénateurs républicains, Bruno Retailleau, invoque une trahison.
Il a donc menti, il nous a menti. C'est de la déloyauté. C'est un manque de droiture. Et quand on est de droite, la moindre des choses, c'est précisément de cultiver cette droiture.
Autre réaction, celle de Valérie Pécresse.
Je crois qu'il n'y a pas de place pour les traîtres.
Éric Ciotti, lui, reste droit dans ses bottes. Il assume.
Je suis LR, je reste LR, je suis président des LR et il n'est absolument pas question que je démissionne, d'autant que je sais bénéficier de la très large confiance des militants. Je reçois depuis quelques minutes, d'ailleurs rien qu'en sortant du plateau, des milliers de messages de soutien. Voilà, je connais les militants, j'en suis un et je sais qu'ils me soutiennent dans cette démarche.
Rupture chez les LR, divorce aussi du côté de Reconquête. C'est fini. Entre Éric Zemmour et Marion Maréchal.
Éric Zemmour a décidé, malgré notre opposition, de présenter le maximum de candidats contre cette coalition des droites dans toute la France, prenant ainsi le risque de faire perdre cette inédite espérance de battre Emmanuel Macron et l'extrême gauche. Cette décision est une triple faute. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette opportunité inédite, historique, de permettre la victoire du camp national.
À droite, rupture et ralliement. À gauche, accord et consensus. Et du côté du gouvernement alors? La plupart des ministres ont du mal à cacher leurs doutes quant à cette dissolution soudaine. Nous sommes le mercredi 19 juin, à 11 jours du premier tour.
Il faut le dire, effectivement, l'ambiance est un petit peu morose dans les bancs des ministres. Deux réactions que je peux vous citer ce matin, qu'on a pu récolter du côté du service politique de BFM TV. Un ministre qui nous indique « Je pensais que tout était prêt pour cette dissolution, mais non, il n'y a aucun plan de l'Élysée, il nous laisse tout seul. » Il y a vraiment ce sentiment d'abandon quand on parle en coulisses avec certains ministres qui sont encore sous le choc après cette annonce de dissolution du 9 juin.
L'ancien Premier ministre Édouard Philippe, lui, ne mâche pas ses mots.
Les langues se délient dans le camp présidentiel et on peut dire en substance que ça balance.
Ah oui, et la dernière petite bombe, elle a été lâchée par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre Emmanuel Macron, qui était interrogé sur la dissolution. Hier, il n'a pas mâché ses mots. Regardez, c'est le président qui a tué la majorité présidentielle, dit-il. Il l'a dissoute. Ce n'est pas moi qui suis parti, ce ne sont pas les frondeurs. Il a décidé de la tuer. Très bien, on passe à autre chose.
Acte 3. Les candidats sont investis, place à une campagne accélérée. 18h, dimanche 16 juin 2024, heure limite du dépôt des candidatures. Mais certains n'ont pas attendu pour commencer à tracter.
Opération séduction pour le député Carl Olive dans sa circonscription. Jour de marché dans la ville de Poissy, aucun habitant ne doit repartir sans un tract. L'enjeu pour ce député sortant, convaincre.
Les alliances sont faites donc, et les photos sont express.
Une séance photo express pour la prochaine affiche de campagne de ce député sortant macroniste. Et un choix, Emmanuel Macron ne sera pas sur l'affiche de campagne.
Ça a été un atout majeur en 2017. Là, on est après 7 ans de mandat. Force est de constater que le président de la République subit les affres de tous les présidents de la République.
En tout, 577 députés vont être élus et siégeront à l'Assemblée nationale. Autant d'élections locales pour un enjeu national. Des accords de dernière minute, des désistements. Bref, parfois des casse-têtes dans certaines circonscriptions.
Comment ne pas s'y perdre? Dans cette circonscription des Hauts-de-Seine, les électeurs auront le choix entre le Premier ministre, le candidat de l'Alliance RN-LR, un candidat de la branche historique de LR et le Front populaire. Ici, beaucoup auraient au moins aimé que le camp présidentiel et la droite s'unissent.
Dans 60 circonscriptions environ, le camp présidentiel renonce à présenter des candidats, notamment face à Jérôme Guedj en Essonne ou François Hollande en Corrèze. Pour cette campagne express, l'ancien président a décidé de se présenter. Là non plus, personne ne s'y attendait.
Rassemblement de la gauche, il était nécessaire. Mais le rassemblement des Français, il est indispensable.
Les prétendants au poste de Premier ministre se font connaître. À commencer par Jordan Bardella, président du RN, qui s'y voit déjà.
Sur la relation que j'entends avoir avec le président de la République, c'est peut-être la différence d'ailleurs avec les premiers ministres que nous avons connus depuis 2017, et peut-être plus avec Gabriel Attal, c'est que je n'entends pas être le collaborateur d'Emmanuel Macron. Toute la Constitution, rien que la Constitution. J'assumerai ma responsabilité, celle d'être un Premier ministre de cohabitation.
Jean-Luc Mélenchon, qui souffle le chaud et le froid. Moi, j'ai l'intention de gouverner le pays. C'est pas le foutoir, c'est pas le bazar, c'est pas l'Assemblée Générale Permanente. En attendant que le prochain chef de gouvernement soit nommé, les électeurs ont du mal à s'y retrouver. Entre l'Alliance LR Rassemblement National, avec 62 candidats, et le Parti historique des Républicains, qui présente 400 candidats. Ça, c'est donc pour la tambouille politique. Et les idées alors? Et le programme? Peut-on réfléchir vite et bien? La réponse est évidente, c'est non. Le journal Les Échos écrit ceci. Les plus grandes victimes de cette précipitation semblent bien être les femmes. Chiffre à l'appui. Sur les 4009 députés présentés, seulement 1649 sont des députés femmes. Autrement dit, 41% des candidats. 3 points d'écart de moins que pour les législatives de 2022. Et aucun organe politique n'a respecté la parité. Acte 4, l'antisémitisme et le racisme au cœur de la campagne. Le samedi 15 juin, à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, la vie d'une famille va basculer dans l'horreur. Une adolescente de 12 ans va être violée parce que juive. Trois adolescents de 12 à 13 ans sont mis en examen. Le récit du calvaire de la victime, selon le terme employé par les policiers dans leur procès-verbal, est insoutenable. En pleine campagne, les politiques s'en saisissent, comme Jordan Bardella.
Il n'y a plus un seul endroit aujourd'hui en France où les Français sont à l'abri et se diffusent et se développent de manière extrêmement inquiétante depuis le 7 octobre dans notre pays, un antisémitisme d'atmosphère qu'il nous faut combattre et que la République devra évidemment combattre sans faiblir.
Ou encore, Frédéric Descrozailles, député sortant Renaissance du Val-de-Marne, est candidat à sa réélection.
J'ai 57 ans, j'aurais jamais cru vivre ça en France. Ce qu'on vit depuis plusieurs mois, là. Ben, c'est complètement fou. Et en plus, on est dans une confusion incroyable, parce que la laïcité, qui était un thème de gauche, l'extrême droite s'en sert pour faire de l'anti-musulman, avec une confusion entre l'islamisme et la religion musulmane, et l'antisémitisme, qui historiquement, on le trouve à l'extrême droite, l'extrême gauche aujourd'hui le remet en scène.
Réaction aussi de Clémentine Autain de la France Insoumise.
Mon sentiment, c'est qu'il y a dans ce pays un climat qui favorise une confrontation sur le terrain de l'identité. Et ça, pour moi, c'est l'inverse de la République.
Des actes antisémites, donc, et des actes racistes qui se multiplient. Dominique Sopo, président de SOS Racisme.
Bien évidemment qu'il y a une libération de la parole raciste. Nous recevons davantage de signalements, soit via les réseaux sociaux, soit via des témoignages qui remontent de nos comités ou de nos militants, soit via notre service juridique, avec des liens qui sont faits de façon assez fréquente avec l'ambiance dans le pays.
L'ambiance et les idées sans doute. Sur BFM TV, le député RN, Roger Chudeau, est allé encore plus loin concernant le projet du Rassemblement National d'interdire certains postes de fonction publique aux binationaux. Pour lui, Najat Vallaud-Belkacem n'aurait jamais dû être ministre de l'Éducation nationale.
Elle n'aurait pas dû être ministre parce que, compte tenu de sa double nationalité.
Bon, je pense que c'était une erreur et que ce n'était pas une bonne chose pour la République, voyez-vous. Je pense que les postes ministériels doivent être détenus par des franco-français, point final.
Ce 28 juin, quelques heures après sa sortie polémique, Roger Chudeau a précisé que sa position était un avis strictement personnel et n'engageait nullement le Rassemblement national. Des propos qui ont fait réagir Emmanuel Macron en marge d'un sommet à Bruxelles.
En arriver là, pouvoir dire cela aujourd'hui, c'est une dissolution des esprits et des consciences. Le racisme ou l'antisémitisme désinhibé dit quelque chose d'une trahison profonde de ce qu'est la France.
Une dissolution des esprits, dit le chef de l'État, qui ajoute que la France doit s'indigner de ces choses-là. Ce n'est pas de la politique, dit-il. Ce n'est pas simplement un vote. c'est la possibilité même de vivre ensemble. Nous devons avec force ne pas oublier quelle est notre devise. Merci à Marie-Aimée Copleutre pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. Le titre à la une, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à noter et à commenter. À bientôt.